Votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Les grandes voix, vous avez entendu Charles Villeneuve, évidemment, dans ce studio. Gérard Carrero est également là ce soir. Bonsoir. Bonsoir déjà à tous les deux. Et Mickaël Darmon également. Bonsoir à vous, Mickaël.
Bonsoir.
Éditorialiste politique à Europe 1. Merci d'être là tous les trois. Et vous, qui évidemment voulez interagir au 39-21, n'hésitez pas à nous contacter. Je voudrais qu'on regarde d'abord ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui autour d'Emmanuel Macron sur l'immigration. Changement, c'est une espèce de joker. On a vu une double personnalité, peut-être, allez-vous me le dire. En tout cas, j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron tend là, en 15 jours, avec ce débat sur l'immigration, un nouveau piège à la droite. Est-ce que c'est cette lecture-là que vous faites, Charles Villeneuve ?
Moi, je pense que c'est un vrai tournant. C'est comme ça que je le comprends dans ce qui était l'équilibre, si vous voulez, macronien, qui est une politique économique d'inspiration libérale et de droite, et une politique régalienne de gauche, accommodante, etc. Et il cherche, je trouve, à placer le débat face au Front National. D'ailleurs, il l'a dit, je crois que, je ne sais pas si Mickaël a assisté à son intervention.
Oui, j'ai écouté,
hier
oui.
soir, et c'est assez intéressant, puisqu'il a dit que la gauche, jusqu'à présent, a complètement négligé ce phénomène. Les bourgeois qui font partie de nos électeurs, qu'ils soient de gauche ou de droite, ne savent pas ce que c'est finalement l'émigration envahissante avec les cités interdites, etc. Il ne l'a pas dit comme ça, mais
vous traduisez sa pensée, c'est ça ouais.
Je force l'image. Et finalement, cet électorat populaire, il est allé où ? Parce que n'oublions pas que nous avons trois échéances électorales qui vont arriver bientôt. Ce sont les municipales après en 2020, c'est-à-dire dans quelques mois. Ensuite, les régionales, très importantes en 2021, et l'élection présidentielle. Et cet électorat populaire, eh bien, il est au Front National. Donc, il se place en face du Front National.
Il nous avait déjà habitués à ça, Gérard Carrero. Se positionner avec comme adversaire en face, seul et unique, Marine Le Pen.
Ça, c'est sûr que ce n'est pas nouveau. Mais ce qui est nouveau, c'est quand même qu'il a découvert hier l'Amérique. Il a découvert l'Amérique, notre président de la République. C'est-à-dire qu'il, d'un seul coup, il a découvert qu'il y avait une montée prodigieuse des demandeurs d'asile, que l'immigration posait des problèmes aux Français au point que 64% des Français, dans une étude publiée avant-hier, montrent que les gens disent « on n'est plus chez nous comme avant en France ». Il a découvert le communautarisme rampant dans un certain nombre de quartiers et de banlieues. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Il ne disait pas ces choses-là. Il ne disait pas ou il les sous-estimait. Ça ne faisait pas partie du macronisme prioritaire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il savait très bien que tout ça, je veux dire, quand je dis qu'il découvre l'Amérique, c'est une plaisanterie de ma part. Il savait très bien tout ça, mais il ne jugeait pas opportun. Aujourd'hui, il juge opportun de mettre ça au premier plan, parce qu'il y a effectivement trois échéances électorales, et qu'il veut que le match se déroule entre lui et le Front National.
C'est
le seul moyen, c'est de dire, attention, si je laisse les choses en l'état, c'est le Front National qui touche les dividendes de l'immigration, etc.
On entre, évidemment, Mickaël, dans la deuxième partie du quinquennat, donc les sujets régaliens, l'immigration en tête, reprennent le pouvoir.
Oui, c'est ce qui a été annoncé en privé depuis plusieurs semaines. Du côté de l'Élysée, on dit, l'environnement, c'est fait.
L'écologie,
on a compris que sur les retraites, on lance maintenant. Deuxième partie du quinquennat, les mystiches, comme il a dit selon le poète hier, c'est maintenant le régalien. Il a également identifié, et là je mettrai un tout petit bémol par rapport à ce qui a été dit, en réalité il le voit depuis longtemps, il a tenté, souvenez-vous.
C'est ce que j'ai dit, qu'il le voit depuis longtemps, mais il ne le disait pas beaucoup.
Mais alors, il avait tenté de le dire lorsqu'il avait lancé le grand débat, puisqu'il avait mis dans les sujets du grand débat l'immigration et l'identité nationale. Ça avait fait un tollé au sein de la majorité, et même Édouard Philippe s'y était opposé, il avait dû retirer ce projet. Mais bien évidemment, lui, il voit bien que du côté des adversaires à droite qui se préparent, les trous dans la raquette, entre guillemets, sont identifiés de leur part. Et quelque part, ils ferment le match. N'oublions pas que Xavier Bertrand, jeudi, fait une grande émission à la télévision. Et il veut parler de ces sujets-là.
Oui.
Il a coincé.
Attendez, excusez-moi, juste, il y a Richard qui nous appelle depuis les Yvelines, Charles.
Ah, Richard.
Alors Richard, parce qu'il patiente. Merci Richard, vous nous appelez au 39-21.
C'est moi qui vous remercie de me prendre l'antenne. Écoutez, moi... Je veux dire, personnellement, moi, pour moi, bon, c'est une manœuvre bassement politique, parce que je voudrais rappeler simplement quelques faits. Monsieur, Monsieur Macron, quand même, est quand même bizarre. Le grand débat avec les Gilets jaunes était exclu l'immigration, la sécurité. Il ne fallait pas en causer, c'était tabou. Bon, il s'est empressé de signer le traité de Marrakech. Hein. Bon, ça, on ouvre l'immigration en grand. Il ne remet pas en cause le traité du Touquet, alors qu'on sert de poste frontière pour les Anglais, alors que les Anglais ne sont plus dans l'Europe. On prend tous les problèmes qu'on a avec le traité du Touquet, signé par le funeste Sarkozy. Voilà, c'est nous qui récupérons tous ces problèmes-là. Alors, moi, au lieu de dire ça, il ferait mieux d'agir. Il n'a qu'à sortir de tout ça, déjà, pour faire des preuves. Là, c'est vraiment électoraliste, je pense. Je ne pense pas que les gens du Front National soient dupes, mais ça fait vraiment... non. Alors qu'il a tout fait le contraire, hein, ça, à commencer par...
Ouais. Ça sonne faux. Vous entendez Charles Villeneuve, vous entendez Richard qui nous appelle ce soir. C'est juste voilà, du calcul.
Non, mais
politique.
Enfin, c'est un homme politique et c'est un stratège,
voilà.
De toute façon. Et il est bien évident, quand et Gérard et Michaël ont décrit de toute façon que cet électorat populaire est allé en plus grand nombre vers le Rassemblement national, il est bien évident qu'il il est dans son rôle d'essayer de freiner, si vous voulez, cet afflux. Alors, ce qu'il a alerté d'autant plus, c'est qu'il faut savoir que depuis 2017, le nombre de demandeurs d'asile excède 100 000 demandeurs en France. Et vous savez que c'est 4 fois plus que l'Italie de Salvini, qui 24 000 seulement demandeurs d'asile, le Royaume-Uni. Ouais.
Sauf qu'il y a sa majorité. Sa majorité, qui est déjà largement froissée,
oui,
on va y venir. Il y a son Premier
partagée,
ministre.
Mais
on va y venir. Il y a son Premier ministre, s'il vous plaît, on en parle juste après la pause. Parce que Édouard Philippe, dans tout ça, à tout de suite.
Et votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix jusqu'à 19h. Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et Mickaël Darmon, éditorialiste politique à Europe 1. Les grandes voix que vous pouvez interpeller, n'hésitez pas à réagir en direct 39 21.
Il y a eu l'Emmanuel Macron de la campagne présidentielle. Il y a l'Emmanuel Macron qui entame cette deuxième partie de quinquennat avec cette position de fermeté compte tenu sur le sujet de l'immigration et sur les sujets régaliens. Gérard Carrérou, l'aide médicale d'État pour les sans-papiers, ça y est ? Il se dit qu'ils sont prêts à la restreindre. Les quotas d'immigration, l'idée agitée par Christophe Castaner. Normalement, c'est des marqueurs marqueurs de la droite, non ?
Ça, ce sont les actes. Parce que ce qu'on a eu dans le grand discours d'hier, on a eu effectivement des annonces intéressantes du constat de la situation. C'est le chef d'État a fait un constat. Certains ont dit même, on aurait dit du Sarkozy au Karcher, tellement c'était viril.
Musclé.
Bon. Maintenant, on attend aux actes. Alors, je prends un seul exemple, le droit d'asile. Il y avait 100 000 demandeurs il y a 2 ans, il y en a 130 000 cette année, donc une progression de 30% en 2 ans. C'est spectaculaire. Là-dedans, qui sont les plus demandeurs d'asile, les nations ? Ce sont les Géorgiens, les Afghans, les Albanais. Ils sont déboutés, vous allez me dire, mais ils sont déboutés à 80 ou 90% pour certains. Mais ce n'est pas grave qu'ils soient déboutés, parce que déboutés, ils restent en France de toute façon, ils ne sont pas reconduits. Pour 90% d'entre eux, ils ne sont pas reconduits à la frontière. Et même déboutés, ils ont droit à tous les systèmes médicaux.
Et
vous verrez qu'il ne sera pas question de toucher à l'AME, parce qu'il y aura dans la majorité macronienne, il y a effectivement, là, si on veut créer des frondeurs macroniens, comme il y a eu autrefois des frondeurs socialistes, il suffit de dire on supprime l'APE ou on la réduit de moitié.
On se souvient de ce que ça a créé comme dégâts aussi à droite avec Laurent Wauquiez. Vous vous en souvenez, Mickaël Darmon, quand il s'agissait lors de la première convention de toucher à l'AME. Là, on les voit, les marcheurs, les peut-être futurs frondeurs.
Alors, aujourd'hui, ils ne sont pas en capacité de vraiment faire une fronde telle qu'on l'a connue sous le mandat Hollande, parce que là, les frondeurs étaient en divergence fondamentale idéologique avec le président d'alors. On n'est pas dans cette logique-là. On est dans un émoi, effectivement, des gens qui n'ont pas la même vision de l'immigration parce qu'ils viennent de la gauche, et c'est la logique de cette majorité. Il faut voir aussi que, comme Emmanuel Macron le sait très bien, il crée aussi une forme d'équilibre dans les textes. C'est-à-dire qu'au moment où il durcit sur l'immigration, il y a également la PMA.
La PMA, donc qui va sur le sociétal.
Qui va jouer dans une forme, on va dire, de régulateur, de compensateur. Moi, ce qui me frappe surtout aujourd'hui, c'est qu'en cette rentrée, l'acte 2, effectivement, du quinquennat, eh bien, il rebétonne le match avec Marine Le Pen. Et Marine Le Pen, qui a entendu le message, elle lui a répondu ce matin en disant eh bien, parfait. La campagne présidentielle a démarré. Et bien moi, je suis pour effectivement rejouer le match. On se retrouve un petit peu comme le dialogue Mitterrand-Le Pen de l'époque, avec des messages tacites qui s'échangeaient les uns entre les autres.
Mais l'enjeu, c'est entre les deux, qui sont effectivement déjà en position de deuxième tour de présidentielle. L'enjeu principal, c'est l'électorat. qui reste de droite,
bien sûr.
L'électorat de droite qui n'est pas encore rallié, une partie s'est ralliée au président Macron, l'autre moitié, disons une grosse moitié, reste en dehors.
Exactement.
Et il s'agit de savoir si cet électorat de droite ira chez Marine Le Pen ou va rester chez Macron.
Et qu'est-ce que va faire LR ? Parce que ce sera un enjeu pour les futurs dirigeants de LR.
Si vous prenez du côté d'LR, Charles Villeneuve, on voit que le match retour là, se prépare, chacun fourbit ses armes. Comment ils font sur LR, chez LR deux minutes ? Comment ils font les Républicains sans tomber dans le piège, pour le coup, dans ce que fait le Rassemblement National ? Qu'est-ce qui va leur rester comme latitude ?
Il faudrait leur demander. Moi, je pense, si vous voulez, je ne vois pas très bien. D'abord, laissons leur élire leur président. Hein, c'est en octobre, si
oui, absolument.
Je
oui,
le sais. Octobre. Puis à partir de là, on verra comment ils vont le développer. D'ailleurs, Jean Leonetti, au micro d'Europe 1, avait un peu esquissé cette affaire, notamment sur la sécurité et sur l'immigration. Mais eux n'ont pas bougé. Ils ont toujours eu la même position. Pas pour rien que tout à l'heure, Gérard a rappelé qu'on avait qualifié la sortie du président de la République de Sarkozy au Karcher.
Bah évidemment, mais se distinguer sans tomber dans ce que fait le Rassemblement National, c'est un peu la quadrature du cercle.
Exactement, c'est une équation impossible pour vraisemblablement Christian Jacob, mais c'est surtout aussi le projet politique de Macron de tout son quinquennat, fracturer la droite, et chaque fois qu'il en a l'occasion,
il le fait.
Il
ne va pas se gêner.
Merci. On va à Marseille dans un instant. Enfin, entre
on va
guillemets.
À Marseille. Allons à Marseille.
Allons à Marseille.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy. C'est jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix jusqu'à 19h. Charles Villeneuve, Gérard Carrérou, Mickaël Darmon, éditorialiste politique à Europe 1. Et toutes vos réactions en direct au 3921 et sur Twitter, hashtag Europe 1. Un plan anti-drogue, un plan d'action de l'international à la cage d'escalier. Ce sont les mots de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, avec trois autres ministres à Marseille aujourd'hui, pour annoncer donc ce plan. 55 mesures, on va mutualiser les services qui luttent contre le trafic, on va donc s'adresser aux policiers, aux gendarmes, magistrats, douaniers, ils vont devoir travailler main dans la main.
Mais c'était un film à grand spectacle ce matin. C'était un casting d'un film à grand spectacle.
On a sorti l'artillerie.
On a sorti les quatre ministres entourés des préfets,
tant mieux,
de tous
Gérard.
Les élus. Tout ça était très bien. Non mais sur le
l'affichage
papier,
est là.
L'affichage est formidable. Et quant à dire, il faut éradiquer. Alors, je dirais même pas éradiquer, parce que même les policiers, celui qui était là tout à l'heure,
Gilles
qui connaît bien le problème,
Gilles Leclerc,
qui a été le dans un premier temps, on pensait éradiquer, maintenant on est plus modeste, on pense simplement freiner. Bon. Donc, mais le plan, moi je souhaite vivement que ce plan aboutisse. Simplement, je me dis que pour qu'il aboutisse, avec les moyens actuels, il faudrait que les policiers puissent à tout moment pénétrer dans toutes les cités des quartiers nord de Marseille sans se faire caillasser.
Non
mais il y a plein de choses qui ne sont pas possibles. Il faudrait les indicateurs, on parle des indicateurs, mais les indicateurs, allez faire l'indicateur quand vous êtes dans un de ces immeubles en disant j'ai mon voisin qui, le gars, va se retrouver avec un couteau dans le dos, rapido,
et
ainsi
disiez,
de suite. Autrement dit, le problème,
en général,
est devenu tellement aigu et a été tellement maltraité depuis 30 ans que je ne vois pas très bien comment ce plan magnifique va pouvoir
l'armer. Vous vous souvenez, Charles Villeneuve, c'était en 2012, c'est Samia Ghali qui disait « il faut l'armer ». Elle l'a répété aujourd'hui. Alors évidemment, ça semble extrême. Mais quand on voit qu'aujourd'hui, les dealers, ils ont 12, 13 ans, ils sont payés non plus en armes, non plus en euros, mais en armes.
Voulez, d'accord, il y a tout ça, tout à fait, cette population, si vous voulez, toutes les petites mains du trafic de stupes. Mais il faut se rendre compte un peu de l'ampleur que ça a pris. Aujourd'hui, c'est une industrie. Puisque son chiffre d'affaires est évalué à 3,5 milliards d'euros et les coûts sociaux à 8 milliards d'euros.
Et 20 000 personnes en vivent.
Et n'oublions pas qu'en face, c'est-à-dire les trafiquants, ont terriblement modernisé leur manière de transporter, d'acheminer la drogue avec ce qu'on appelle les go-fast. Ça part de l'Afrique noire, ça remonte sur le Maroc, ça arrive sur le littoral espagnol, ça revient, ça va jusqu'à, évidemment, le sud-ouest, Marseille, ça remonte toute la vallée du Rhône, Paris, Belgique, l'Allemagne, etc. Et je crois que c'est une bonne chose d'avoir, en quelque sorte, forcé la coordination. Il ne faut pas oublier, d'ailleurs, que c'est une policière, quand même, qui a en main ce nouvel office central de lutte contre les stupéfiants. Il n'est pas central, d'ailleurs. On va directement à l'office des stupéfiants. Stéphanie Charbonnier, qui est une contrôleuse générale de police. et un procureur, c'est la nouveauté aussi. Et c'est très intéressant parce que c'est un vrai connaisseur. C'est Samuel Vettel qui est le procureur de Bayonne et qui est assez efficace sur le plan, si vous voulez, de la connaissance des réseaux de trafic.
Alors, vous savez ce que vous dites là ? Ça va résonner aux oreilles de Joseph qui nous appelle depuis Calvi, n'est-ce pas, Joseph ? Bonsoir à vous, bienvenue sur Europe 1.
Bonsoir. Bonsoir Europe 1, bonsoir à vos invités. Les ministres qui ont fait le déplacement depuis Paris ont fait le bon choix à Marseille. Marseille qui fait partie de... du pourtour méditerranéen avec la Tunisie, le Maroc, l'Algérie et Marseille qui était jadis la plateforme de la drogue avec celui que l'on surnommait le chimiste justement de la drogue, en l'occurrence
Césari,
et qui transformait la drogue dure en drogue douce.
L'héroïne, la French Connection.
Quand vous entendez le plan,
c'est la French, c'est l'époque French Connection. De la French Connection.
Alors, du coup, Joseph, quand vous entendez l'annonce de ce plan-là, 55 mesures, les ministres qui viennent, qui font comme ça la belle photo de famille pour dire bah, ça y est, on prend les choses en main. C'est
bien évidemment,
un plan
c'est,
plus
une photo, c'est une photo de famille, mais il y a peut-être l'effet d'annonce, mais faut-il encore mettre en application ces mesures pour. Enrayer ce trafic de drogue qui, à juste titre, bon, comme le disait un de vos invités, dans des cités, dans certaines cités, on ne peut pas y pénétrer.
Merci, Joseph.
Samia Ghali faisait allusion à l'armée, justement.
C'est ce que je disais, 2012. Elle l'a redit ces derniers jours. Merci beaucoup, Joseph. C'est une situation inextricable, ce qui se passe à Marseille.
Et moi, je voudrais remercier Joseph parce qu'il a effectivement donné la profondeur de champ à ce dossier. Le port de Marseille qui a été effectivement finalement pris, contrôlé par le milieu à l'époque pour le plan Marshall et qui en contrepartie a pu développer la French Connection, c'est l'origine du pacte entre la classe politique et le milieu à Marseille qui a organisé toute la vie de la cité et de cette ville avec sa paix sociale depuis des décennies.
Mais alors si on le sait, pourquoi on ne fait rien ?
Je nuancerai
un peu cette affaire parce que c'est une époque révolue sur ce plan-là. La French Connection qu'on connaît très bien, que
ça
j'ai suivi,
après en milieu
et Dieu
dans les
sait
quartiers.
Si. Il y a eu un pacte surtout entre les Américains qui ont fortement aidé financièrement et sur le plan de l'enquête aussi avec le BND, le Bureau des Narcotiques, et le FBI, c'est-à-dire le contre-espionnage intérieur, si vous voulez, américain, et la French Connection a été démantelée. Maintenant,
c'est un autre... parce que Ingrid Brown a fait créer FO avec
les Français.
C'est
un autre type de trafic qui n'a rien à voir, dont la capitale n'est pas obligatoirement Marseille. Marseille, c'est plus global que ça. Il y a une insécurité et il y a surtout des règlements de compte importants parce qu'en avril 2006, on a, si vous voulez, assassiné celui qui tenait tous les quartiers nord et qui voulait étendre son trafic, c'est-à-dire celui qu'on appelait le rôtisseur, parce qu'il tuait et en même temps il brûlait dans la voiture le cadavre de celui qui l'avait
assassiné. La genèse aussi de ce trafic exponentiel à Marseille, de la situation extrême dans laquelle ils sont, et c'est notamment Joseph qui a vécu 20 ans à Marseille qui nous racontait aussi cela ce soir. Merci à vous trois de nous avoir fait aussi regarder en arrière. Merci à tous les trois. Europe 1.